Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Ça va être très très BFM Business aujourd'hui. On va parler de la courbe des taux qui s'inverse. Les taux longs passent sous les taux courts. C'est la première fois en plus de 20 ans. Bon, généralement, il y a un peu le mot récession derrière qui suit dans le raisonnement. Bon, alors on va détailler tout ça ensemble. La Réserve fédérale rassure un peu. Elle annonce qu'elle va modérer ses prochaines hausses de taux. Modérer, hein, pas cesser de les monter. Et on sait que du côté de la BCE, c'est un discours différent. Christine Lagarde a considéré que l'inflation allait encore monter en zone euro et que elle, pour le coup, elle va monter ses taux. D'ailleurs, tout le monde se demande le 15 décembre si on a 50 points de base ou 75 points de base. On a clairement deux camps qui s'affrontent aujourd'hui. Et alors on les a eu ici ces débats. Il y a ceux qui disent « Oh, arrêtez de monter les taux. Arrêtez les banques centrales, vous allez tout casser. On a payé pour tout sauver, vous allez tout casser en montant les taux. » Et ceux qui disent « Bah, je suis désolé, mais les banques centrales, elles ont un mandat. Le mandat, c'est de lutter contre l'inflation, elles doivent continuer à monter les taux. Elles doivent garder leur crédibilité. Elles doivent éviter les anticipations d'inflation. Et il est tout à fait normal, par exemple, avec une inflation sous-jacente en zone euro qui est à entre 5 et 6, eh bien que la BCE continue à monter ses taux puisqu'elle a un taux de refis qui est uniquement à 2. Donc voilà, il y a un écart qui justifie que ça continue. Mais là, c'est vraiment un débat et un débat d'experts. Et puis alors, j'ai posé cette question de manière un peu ironique. Imaginons un monde parfait, le monde de oui-oui, hein, le monde merveilleux. Qu'est-ce que pourrait bien faire une banque centrale qu'elle ne fait pas aujourd'hui ? Et si la banque centrale changeait carrément de boulot ? Si elle arrêtait de se focaliser sur la lutte contre l'inflation pour devenir une sorte de trésor, une sorte de Bercy ? Et plutôt que de faire de la politique monétaire pure totalement indépendante, bon, ce qu'elle a d'ailleurs un peu fait, une sorte de politique budgétaire. Bonjour, Jezabel Coupet-Soubéran.
Bonjour, Nicolas.
Elle est maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Conseillère scientifique à l'Institut Veblen, chroniqueuse au Monde, et vous avez publié notamment Monnaie, Banque, Finance, c'est la 4e édition aux Presses universitaires de France, ou encore, vous êtes la coordinatrice de l'économie mondiale 2023, c'est publié par le CEPI, tous les ans, il y a ce petit livre que je reçois. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes également membre du comité éditorial. Pourquoi vous riez ? Il a le droit.
Non, mais publie tout le temps.
Ah, ben oui,
à chaque fois que je viens avec lui, il y a un nouveau bouquin qui vient de sortir.
Voilà, on travaille. Voilà.
Ah, ça bosse.
Travailler, c'est trop dur.
Ça bosse, les économistes.
Ah, mais il y a.
Surtout l'impératif écologique pour Jean-Marc Daniel, c'est bien. Tout le monde s'y met, formidable.
C'est pour ça qu'il faut lire le
monde change, ouais. Finalement. Le monde change. Il y a des raisons d'espérer.
J'ai un peu de doute sur le contenu, quand même, néanmoins.
Bon, il faut lire le livre. On va l'acheter. Et puis après, l'offrir.
C'est bientôt Noël.
C'est bientôt Noël.
Membre du comité éditorial de Pour l'écho, à la une du numéro de décembre qui s'affiche sur l'écran, les 5 défis du commerce vert. Faut-il donner 100 milliards d'aides climatiques par an aux pays pauvres ? Comment mieux négocier, produire, transformer, transporter, consommer ? Et Jean-Pierre Petit, qu'on a déjà entendu, mais que je n'ai pas présenté, bonjour.
Bonjour.
Président des cahiers verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Le taux des emprunts d'État à 2 ans dépasse celui des emprunts d'État à 10 ans. C'est la première fois, au moins en 20 ans. Ça veut dire que c'est plus cher de se financer sur une courte période, hein, entre 1 et 3 ans, que de se financer sur une longue période, entre 10 ans et plus. On a l'écart entre le taux à 2 ans et le taux à 10 ans aux États-Unis qui est maintenant à moins 78 points de base. On n'avait jamais vu ça depuis 1981. Et à la suite de cette période-là, vous le savez, les États-Unis avaient quand même connu une sacrée récession. Donc on y va tout droit, là, Jean-Pierre Petit.
Oui, alors...
Pas trop long, mais
non,
pas trop...
Non, on va faire un truc très
ouais,
court.
Mais pas trop compliqué, hein.
Pas trop compliqué, tu vas voir. La simplicité des trucs.
Et pas trop près du micro, Jean-Pierre, sinon c'est juste...
Absolument. Bon, alors, allez. Commençons par les faits. Depuis 50 ans environ, toutes les récessions, je dis bien toutes les récessions aux États-Unis, définies par le National Bureau of Economic Research, ont été précédées par une inversion de la courbe des taux. Ça, c'est un fait. D'accord ? L'inversion de la courbe des taux entre le 2 ans et le 10 ans. C'est-à-dire le 10 ans sous le 2 ans. Ça a commencé au mois de mars aux États-Unis.
Oui, on en avait parlé.
Historiquement, depuis 50 ans, si tu regardes le début de l'inversion de la courbe des taux, ça précède le pic du cycle, c'est-à-dire le début de la récession. Alors, moyenne médiane, autour de 16-17 mois d'avance. C'est-à-dire que ça a commencé au mois de mars. Si tu répercutes, reproduis les moyennes historiques, tu te retrouves avec une récession au deuxième ou au troisième trimestre de 2023. Mmh. C'est ce que souvent les investisseurs aux États-Unis ont dans la tête. Voilà. Alors, historiquement, il y avait eu des travaux académiques qui montraient depuis 40 ans, depuis que les taux baissaient, depuis que l'inflation baissait tendanciellement, que le modèle que le caractère prédictif de la courbe des taux avait perdu un petit peu de son influence. Mais là, je prétends qu'avec le retour de l'inflation depuis la fin 2021, il a retrouvé de l'importance. Donc, c'est important. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire en économie ? Parce qu'indépendamment des faits empiriques, ça veut dire que les taux longs qui regardent plus loin, les investisseurs oui, qui investissent sur des maturités plus longues, regardent plus loin que le court terme. Alors que le 2 ans, il est très lié au taux directeur de la Réserve fédérale ou de la BCE.
Bah oui, donc c'est, là, c'est un taux court, le taux
de la Banque centrale. Les taux longs, ils commencent à anticiper un ralentissement de la croissance nominale, donc de la désinflation, et surtout, très probablement, une contraction, un début de contraction de la croissance du PIB réel. Donc il anticipe une récession. Sauf pour l'instant, mais il anticipe une récession. Ce que je voudrais ajouter par rapport à cela, c'est deux, trois petites choses. Il est normal que la courbe s'aplatisse, voire s'inverse, quand la Banque centrale, quelle qu'elle soit, resserre brutalement et fortement. Ça, en général, ça
oui,
se passe.
Oui, parce que comme la Banque centrale remonte un taux court, automatiquement, le taux court est plus sensible aux décisions de politique monétaire.
Exactement. Voilà. Et donc, ça, c'est le cas. C'est pas le cas partout, l'inversion. En Italie, c'est pas le cas. La France, pas tout à fait le cas. Mais c'est vrai que ce qui compte, c'est les États-Unis. Et c'est vrai qu'on voit un mouvement mondial de toute façon de fort aplatissement et même d'inversion. Donc, alors, il y a d'autres indicateurs avancés que je trouve intéressant pour prévoir une récession aux États-Unis et dans le monde, c'est le pic des marges aussi. Et le pic des marges.
Le pic des marges des entreprises.
Les entreprises, il est derrière nous. Vous avez le resserrement des conditions financières, vous avez des indicateurs composites de conditions financières, c'est-à-dire pas seulement le taux court américain, mais le taux long, et le taux court réel, le taux long réel. L'évolution du marché action, c'est-à-dire la bourse, la valorisation de marché action, les conditions de crédit bancaire, les spreads de crédit. On a une superbe dégradation que moi je n'ai jamais vue depuis au moins 1994.
Dégradation de quoi, pour être précis ?
Les conditions financières.
Les conditions financières
sont plus dures. Beaucoup plus dur
pour accéder à un prêt.
Un prêt.
On l'a vu en France.
Ou au marché, hein, pour les entreprises.
Oui, enfin, aujourd'hui, les marchés actions, ils sont.
Plutôt... Le marché de la dette.
Oui,
la dette, là, c'est okay. Trop de taux d'intérêt réel.
Ok, ok.
Voilà. Alors, sur les émissions d'actions, il y en a beaucoup moins quand même. Hein. Donc, même les marchés actions sont touchés. Et ça, c'est important pour la macroéconomie américaine. Bon, il y a d'autres indicateurs. Par exemple, le point bas du taux de chômage qui avait été atteint il y a quelques mois, c'est historiquement un indicateur avancé de récession. Parce que quand il y a du taux de chômage très bas, il y a des pressions inflationnistes, la réserve fédérale resserre, etc. Donc oui, on va probablement, mais il ne faut pas trop s'inquiéter parce que ce sera une récession, enfin aux États-Unis, ce sera une récession, si elle a lieu, probablement assez soft pour l'instant. Si ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire un début de désinflation, se poursuit. Parce que ce qui est intéressant...
Je passe la parole, Jean-Pierre.
Oui, je laisse la parole. Ouais. Je parlerai moins des autres trucs.
Oui, tout est lié, là, aujourd'hui. Donc, oui,
non, juste un truc, ça veut dire aussi que le pari de Jérôme Powell, pour l'instant, est réussi. Hein.
C'est-à-dire, on rappelle le pari de Jérôme Powell.
Il réussit la désinflation, le marché obligataire ne s'inquiète pas trop, les anticipations de marché d'inflation diminuent, les anticipations d'inflation des ménages américains diminuent, et même des entreprises commencent à diminuer, le tout avec de la désinflation qui a commencé dès le mois de juin, et pour l'instant, avec des créations d'emplois qui vont très fortement décélérer, mais qui sont encore en territoire positif et qui permettent pour l'instant à l'économie américaine de ne pas rentrer en récession.
Isabelle Coupé-Soubéran, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Pierre Petit ?
Oui, en gros, enfin, si ce n'est que certes, toutes les récessions sont précédées d'une inversion de courbe des taux, mais toutes les inversions de courbe des taux ne sont pas nécessairement indicatrices de récession. La courbe des taux, ce n'est pas non plus une boule de cristal. Et puis là, quand on regarde les courbes des taux, alors c'est vrai qu'on voit sur la courbe des taux américaine, on voit effectivement que le taux à 10 ans passe en dessous du taux à 2 ans, mais si vous regardez la courbe en entier, c'est pas complètement une courbe inversée, c'est-à-dire que on n'a pas, si vous voulez, tous les taux longs qui sont inférieurs au taux court. Si vous regardez la courbe des taux française, eh bien vous avez une courbe des taux qui reste un peu ascendante, avec des taux courts en dessous des taux longs, et puis des taux longs qui s'aplatissent. Donc bon, je pense qu'il ne faut, il faut pas en faire non plus, si vous voulez, une boule de cristal. C'est vrai que c'est quand même souvent présenté par les investisseurs comme un signe avant-coureur de récession. Je pense que là, l'explication, elle est peut-être un peu plus mécanique. Hein, c'est-à-dire, et vous l'avez dit,
c'est
d'ailleurs.
C'est la hausse des taux.
Bah, oui, voilà, la hausse des taux courts est plus rapide que celle des taux longs. Et puis, si on regarde le taux à 10 ans pour les États-Unis, en gros, le taux à 10 ans, il est représentatif du taux des bons du Trésor américain, le plus acheté dans un contexte d'incertitude comme celui que l'on connaît, où au fond on n'est pas tellement capable quand même de dire si aujourd'hui vraiment on a passé le pic de l'inflation ou pas. Les investisseurs ont besoin de valeurs refuges, d'actifs supposés sans risque, et malgré tout, le bon du Trésor américain, ça reste un peu ça. Donc je pense que c'est plus mécanique pour le moment. Ça ne veut pas dire que on s'oriente pas vers un contexte de récession. Je pense que de toute façon les banques centrales assument très bien ça. Ce qu'elles nous disent, c'est nous on remonte nos taux et on va continuer à le faire parce que c'est la seule manière de ralentir l'inflation. Je pense qu'elles se trompent, mais on va sans doute en discuter.
C'est le débat juste après. Bon, je voulais peut-être réagir à cette inversion de courbe, Jean-Marc Daniel. Le FMI a revu à moins de 2% sa prévision de croissance mondiale 2023, moins de 2% au niveau mondial. C'est un peu de la récession quand on est à moins de 2% au niveau.
Oui, par rapport à tout ce qui a été dit, d'abord, quand on dit on n'a pas vu ça depuis 1980, ce qu'on n'a pas vu, c'est un tel écart. Mais autrement, comme l'a dit Jean-Pierre Petit, chaque récession, celle des années 90 et celle de 2008, il y a eu effectivement une inversion de la courbe des taux. Alors, est-ce que c'est un indicateur parfait? On est quand même dans une situation où, par rapport aux années 80, 90, les perturbations de l'économie mondiale ne sont pas uniquement endogènes. C'est-à-dire les perturbations de l'économie mondiale sont liées d'abord à la pandémie, qui n'est pas terminée. C'est-à-dire que la pandémie, quand on regarde ce qui se passe en Chine, elle a encore des conséquences sur l'économie mondiale. Et la pandémie de Covid. Et puis, comme dit le FMI, les fragmentations géopolitiques. Je trouve ça très beau pour désigner la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la fragmentation géopolitique.
Il y en a d'autres.
Il y a d'autres fragmentations géopolitiques à d'autres endroits.
Et donc le fait que ce soit des éléments plus extérieurs au fonctionnement de l'économie, vous amène à quelle conclusion ?
Ça m'amène à la conclusion qu'effectivement, projeter de façon automatique ce qui s'était passé dans les années 90, 2000 est peut-être un peu rapide. Ensuite, par rapport à l'évolution des taux longs, je pense qu'il y a aussi une déconnexion pour les marchés entre ce que fait la politique monétaire, ce que fait la Banque centrale et la réalité de l'économie. Moi, je suis frappé par tout un tas de papiers qui commencent à dire, c'est ce qu'on disait récemment quand on débattait avec Marc Fiorentino, est-ce que les banques centrales sont impuissantes ou incompétentes? Et donc, la question commence à se poser, c'est-à-dire de la réalité de l'efficacité de la politique monétaire. Je pense qu'on sort d'un cycle de pensée et de réflexion où on avait fait de la politique monétaire l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il fallait faire. Je rappelle que les missions de la Réserve fédérale, elle est à la fois là pour la stabilité des prix, pour le plein emploi et pour garantir un niveau de taux d'intérêt conforme à la croissance potentielle. Donc elle est censée s'occuper de tout, être capable de répondre à tout. Et on s'aperçoit qu'elle n'est pas capable de répondre à tout. Et donc il y a un peu une déconnexion, je pense, de l'anticipation que font les marchés des 10 ans sur la réalité de ce que fait la Banque centrale aujourd'hui.
Avant de poser la question suivante, incompétente, impuissante, Jésabelle Coupé-Soubéran, les banques centrales. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. On fabrique pas des barils de pétrole et des mètres cubes de gaz avec des taux d'intérêt.
Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'elles sont capables, en fait, de lutter contre l'inflation du moment? Ça, c'est vraiment une question qui se pose. Il faut absolument qu'elles arrivent à convaincre les investisseurs qu'elles peuvent encore.
La crédibilité.
Exactement. Mais comme vous le dites, c'est en fait, les banques centrales peuvent pas lutter contre une inflation structurelle avec des hausses de taux. Et je suis assez d'accord avec Jean-Marc sur l'idée que la crédibilité finalement dont ont joui les banques centrales au cours des dernières décennies va peut-être commencer à s'étioler. Et je pense qu'il y a une ligne de faille qui est en train de s'ouvrir avec les pertes que les banques centrales sont en train d'annoncer. Pertes en fait qui résultent de quoi? Qui résultent d'une part des achats d'actifs qu'elles ont effectués massivement. Elles ont accumulé des titres à leur bilan. Là, avec la hausse des taux, la valeur de ces titres baisse. Donc elles commencent en fait à engranger.
Quand les taux montent, une obligation perd de sa valeur.
Voilà. Exactement.
C'est un peu contre-intuitif.
C'est ça. Et puis de l'autre côté de leur bilan, elles ont en fait des masses de réserve des banques qu'elles rémunèrent à un taux directeur qui augmente. Donc là, elles sont en train, en fait, d'annoncer des pertes énormes qu'elles vont faire. Et alors, ce qui est assez,
oui, mais ça si ne fait voulez... pas faillite une banque centrale.
Mais justement, ben voilà. Justement, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que, en fait, une perte pour une banque centrale, ce n'est pas quelque chose de grave. Une banque centrale peut fonctionner, à la différence d'une entreprise ou d'une banque commerciale, avec des fonds propres négatifs. Mais dans le même temps, si les banques centrales commencent à nous expliquer qu'en fait, des pertes pour elles, ce n'est pas grave, quelque part, elles révèlent l'étendue de leur pouvoir monétaire qui, jusqu'à présent, a été mis exclusivement au service des banques et des marchés, pas au service de la société. Et si on commençait à réaliser l'étendue de ce pouvoir monétaire, on pourrait faire bien autre chose. Alors, avec la monnaie centrale.
Ça me passionne, ce sera une question, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Sur incompétence ou impuissance, Jean-Pierre Petit.
Je comprends pas.
Pas trop près du micro, parce que là, ça va. Non, justement, pas trop près du micro.
Ah oui, d'accord, voilà. Pas de problème. Non, je ne comprends pas trop bien ce débat. Incompétence.
Si, l'histoire, d'ailleurs, c'est bien de reposer la question. Face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, est-ce que l'arme des taux d'intérêt a une efficacité?
Oui, alors c'est la deuxième partie, l'impuissance. L'incompétence, bon ça faut assez...
Vous disiez quoi, vous, Jean-Marc, impuissant ou incompétent?
Moi, je disais impuissant, et Marc Fiorentino disait incompétence. L'argumentation de Marc Fiorentino...
Les histoires de faire des bilans sur les banques centrales ex post, alors qu'il y a eu deux chocs d'offres totalement inédits dans l'histoire... la plus grande pandémie de l'histoire, avec quand même plus de la moitié de la population mondiale confinée au printemps 2020. La première guerre d'Europe de la part d'une grande puissance militaire nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité. Ça, c'est des événements qui marquent quand même.
Donc et là, plus, là vous êtes dans le camp de les puissances, alors.
Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, les banques centrales font ce qu'elles peuvent. Je veux dire, face
oui,
à
mais elles peuvent pas beaucoup.
Tous les phénomènes inflationnistes depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est des phénomènes de pénurie générés par des guerres. Voilà. On a parlé sans arrêt des années 70. Si vous regardez bien ce qui s'est passé, 73, la guerre du Kippour, elle dure 18 jours, manque de bol. Les pays de l'OPEP décident un embargo généralisé. Donc le prix du baril explose, il est multiplié par 4 en 3 mois et demi, donc l'inflation explose, la récession, etc. Si vous regardez bien les années 76 et 77, l'inflation baisse beaucoup. Oui, elle baisse beaucoup. Et manque de bol, 78-79, révolution en Iran, arrivée de Saddam Hussein en Irak, et une nouvelle guerre. Et ça repart. Voilà, parce qu'on repart de 4, 5, 6, ça dépend des pays, d'inflation. C'est des phénomènes de guerre. Alors, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles doivent faire par rapport à ça? Elles doivent surtout éviter ce qui s'est passé à partir de 74-75, c'est-à-dire la formation d'anticipation par tout le monde d'inflation élevée. Et pour l'instant,
et donc la
sur le match, elles sont en train de réussir.
Et donc la seule solution, c'est d'utiliser les taux.
Utiliser les taux ainsi que le quantitative tightening, c'est-à-dire la réduction progressive du bilan.
Mais sauf que voilà. Elles vont difficilement pouvoir le faire.
Je pense que c'est l'étape un peu brûlante.
Non, ça, on exagère aussi là-dessus parce que il y a des études académiques qui montrent l'impact du quantitative easing sur le taux long d'équilibre et l'impact du quantitative tightening sur le taux long d'équilibre. Etc.
C'est quand on fait machine arrière.
Et l'effet stock est fondamental par rapport à l'effet flux. Tout le monde me dit, mais elles vont moins acheter, donc les taux longs vont monter. Oui, mais. Ouais. Par rapport à ce flux net de la Banque Centrale, par rapport à tous les autres flux nets qui viennent des investisseurs privés, il est très faible. Alors, à moins qu'elle soit très brutale, mais elle va pas l'être. Il est très faible par rapport à l'ensemble du stock. C'est rien. D'accord. C'est rien par rapport au stock d'obligations publiques qu'il y a dans le monde et d'obligations privées, d'ailleurs, puisque la BCE est concernée par les obligations privées.
Oui, allez-y, je vais vous y réagir.
Je pense que ces opérations d'achat d'actifs qu'elles ont effectuées sont quand même difficilement réversibles. C'est-à-dire que tous les titres là qu'elles ont accumulés à leur bilan, elles vont difficilement pouvoir les revendre sur le marché. Alors qu'on nous présente ça d'ailleurs comme un peu l'instrument idéal, parce que ça permettait, quand on en avait besoin, de déverser énormément de liquidités sur les marchés, et puis au moment où on n'en aurait plus besoin, la banque centrale pourrait revendre les titres, et ça permettrait à ce moment-là de faire évoluer les choses dans le bon sens. Là, le problème, c'est que si elle commence en fait à vendre des titres massivement sur les marchés, elles vont considérablement accentuer la hausse des taux longs. Elles vont considérablement faire baisser le prix de ces actifs, oui. D'accord. Et on va, dans ce cas, au devant d'une crise financière.
Non.
Mais si. On va au devant d'un crash obligataire.
En 2018, elle l'a déjà fait.
Non. Pas du tout.
Elle a commencé en décembre 2017, la Fed.
Non. Et alors, qu'a fait la Fed en 2019?
Elle a arrêté.
Eh ben oui, elle a arrêté. basket. Pourquoi elle a arrêté? Parce qu'elle ne pouvait pas, justement, elle ne pouvait pas normaliser sa politique monétaire comme elle le voulait. Ce n'est pas un instrument réversible. Et c'est un instrument dangereux, en fait, cet instrument qui a été utilisé. Mais si, le QE, c'est dangereux. Ça accroît les inégalités, ça forme des bulles. Et ces bulles-là, peut-être qu'on va les voir exploser. Elles ont commencé à exploser. La bulle crypto a explosé. La bulle immobilière commence à exploser.
La bulle crypto n'est pas liée au taux court de la Fed.
Mais bien sûr que si.
Mais non,
elle n'est pas liée au taux court. Elle est liée aux liquidités. Elle est liée aux liquidités qui ont été déversées.
Sur les cryptos.
Mais si.
Mais non, mais.
Là, mais on va laisser.
C'est la flexibilité de la Banque centrale, c'est tout. De toute façon, on est dans des économies ultra financiarisées.
Ah, bah oui, c'est bien le problème.
Bah, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, les financiariser davantage encore, avec des instruments comme.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire une politique monétaire radicale à la Volcker. Qu'est-ce qui va se passer? On a les moyens de se payer un Volcker aujourd'hui?
Mais non, mais c'est pas du tout ça.
Mais si, 79,82, c'est le taux de chômage qui remonte à 18 aux États-Unis en août 82. Et là, aujourd'hui, avec les problèmes et les défis qu'on a pour le financement, tiens, de la transition climatique, de la transition technologique, comment on va les financer avec des taux réels qui vont monter au niveau qu'on avait au début des années 80?
Il y a plein de questions qui sont posées pour la demi-heure qui suit. Alors, évidemment, le risque de crise financière, bon, je pense pas qu'il y ait un risque systémique du tout avec les cryptos, mais il y a quand même des questions qui se posent.
Les cryptos, c'est 0,8% de la capitalisation boursière mondiale.
Non, c'est
Il y aura quelques suicides, et puis voilà.
Mais c'est pas systémique, les cryptos, on est d'accord là-dessus. En attendant, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les bulles commencent à exploser. Voilà ce que ça montre. Et des bulles qui sont formées avec la surabondance de liquidités déversées par les banques centrales.
Ça fait 20 ans que je parle d'économie de bulles.
Oui, c'est vrai. On va marquer une pause là, parce que sinon...
Mais les bulles, la bulle la plus dangereuse, c'est la bulle immobilière des années 2000.
Celle-ci aussi, elle est en train de se déconfler.
Mais non, mais c'est pas du tout les mêmes niveaux de valorisation du marché immobilier américain.
On revient dans un instant.
Bien sûr qu'on revient dans un instant.
Elles sont pas si impuissantes que ça, si je vous écoute bien.
Elles nous ont sauvés. Elles ont pas mal sauvé.
Hein. On coupe les micros, s'il vous plaît. On se retrouve dans un instant.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Isabelle Coupet-Soubéran, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen et chroniqueuse au Monde. Elle a publié Monnaie, Banque, Finance, 4e édition, c'est aux presses universitaires de France. Coordinatrice de Économie mondiale 2003, publié par le CEPI.
2023.
Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Il est également membre du comité éditorial de Pour l'écho, et la une s'affiche sur votre écran, les 5 défis du commerce vert. C'est la une du numéro de décembre. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Jean-Marc, on vous a moins entendu là sur le dernier échange.
Oui, non, mais je vais essayer de faire juste, non pas l'arbitre, mais de tirer à mon avis ce qui est le substantifique moelle du débat qui vient d'avoir lieu.
On vient de prononcer crise financière et voilà.
Oui, oui.
Et bulles.
Non, je suis assez d'accord avec Isabelle sur le fait que je pense que les banques centrales ne pourront pas revenir en arrière sur la taille de leur bilan.
Moi aussi.
Et je pense que cette idée qu'elles ont effectivement fait ce qu'il fallait, quand on regarde à la fois ce qu'elles font et ce qu'elles disent, il n'y a pas de cohérence entre toutes les banques centrales. Par exemple, la Banque du Japon assume parfaitement de continuer
c'est
à faire...
C'est autre chose le Japon,
Ben oui, enfin, c'est quand même la troisième économie mondiale.
Oui, mais c'est un pays pas comme les autres. On peut dire aux Japonais, votre salaire n'augmentera jamais, ils le tolèrent.
Oui,
l'inflation commence un peu.
Je crois qu'il faut avoir une vision trop.
Vous avez vu les Japonais au Mondial dans les tribunes qui ramassent tout ce qui traîne par terre et qui mettent ça dans un sac poubelle en faisant en plus du tri.
Bravo.
Je trouve ça plutôt pas mal.
Très bien. Un Japonais, c'est juste quelqu'un pas comme les autres.
Non, mais il y a d'autres pays où on est propre.
Dans les stades, en Asie, j'ai vu quelqu'un qui ramasse ses orients dans les stades avant de partir.
Il n'y a que 32 équipes. Il y a 195 pays dans l'ONU, donc...
J'invite les auditeurs téléspectateurs à s'intéresser au Japon. C'est un pays qui est un pays qu'on oublie trop et qui est un lieu d'intelligence et d'innovation. Et donc, la Banque Centrale du Japon assume pleinement l'idée qu'on ne peut pas sortir comme ça du quantitative easing brutalement, en montant les taux d'intérêt, en arrêtant d'acheter de la dette publique. Ça suppose une phase de transition et ça suppose aussi de faire le bilan de ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait et pourquoi on renoncerait si systématiquement à cette politique. De même, la Banque d'Angleterre, mes chouchous de la Banque d'Angleterre, arrête pas de dire que effectivement, la hausse des taux d'intérêt n'a de sens que si elle permet de conforter le taux de change, mais qu'elle ne sera pas l'outil véritablement le plus efficace pour lutter contre l'inflation, et qu'il n'est pas question de laisser tomber le trésor britannique. On a d'ailleurs vu que dès qu'elle annonce qu'elle va laisser tomber le trésor britannique, le gouvernement saute. Donc, c'est quelque chose qui est d'une violence et d'une virulence qui est absolument difficile à manier. On peut pas le manier comme ça.
Là, elle risque de le mettre un petit peu en difficulté, le trésor britannique, parce que c'est lui qui va devoir compenser les pertes de la Banque d'Angleterre.
La dernière remarque que je ferai, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a un indicateur très important, c'est que les banques centrales se mettent à faire des pertes. Alors, effectivement, c'est plus privé, une banque centrale. Dans les années, puisqu'on parle, jusque dans les années 30, la banque centrale, elle était privée. Et donc, on ne se serait pas permis de faire des pertes à la banque centrale. La Banque nationale de Suisse, qui est privée, a dit qu'elle ne serait jamais menacée d'avoir le même statut que ce qui se passe au Canada. Mais enfin, quand même, c'est une vraie révolution. Il y a un changement. On doit se poser la question de savoir à quoi ça sert cette banque centrale si ses conditions d'exercice de son métier débouchent sur une situation qui est une situation totalement inédite. Et donc, pour conclure, je pense que, contrairement à ce qu'on pense, la banque centrale, c'est très pragmatique, la façon dont se comporte une banque centrale. Il y a eu des périodes où elle était là pour financer le trésor, il y a eu des périodes où elle était là pour lutter contre l'inflation, il y a des périodes où elle était là pour effectivement faire en sorte que les dettes publiques ne soient pas, ne débouchent pas sur de la banqueroute. Je pense que maintenant, il y a une vraie question à se poser, c'est par rapport à ce que je maintient être de l'impuissance, comment retrouver de la compétence.
Doit-elle changer en fait de priorité?
De priorité, en tout cas, le statut de 78 de la Réserve fédérale, en disant, rassurez-vous, il y aura la stabilité des prix, le plein emploi et les taux d'intérêt dont on a besoin pour la croissance, je pense qu'il faut oublier ça. Ce n'est pas réaliste.
On se rend bien compte que monter les taux aujourd'hui aux États-Unis en disant en même temps que la mission c'est de préserver le plein emploi, il y a un truc où à un moment ça ne marche plus.
Et d'ailleurs,
L'inflation est
près du micro.
Est récessive.
Oui.
Faut se le mettre ça dans le crâne. Mm-hmm. C'est pas immédiat, mais tous les pics de cycle sont précédés par des pics d'inflation. Même si la cause de la récession n'est pas nécessairement uniquement ou exclusivement l'inflation. Même vous avez même un pic d'inflaion avant Lehman Brothers à cause de la hausse du prix du baril, par exemple. Bon, voilà. Donc de toute façon, il n'y a pas d'incompatibilité entre la recherche de la stabilité des prix et la croissance. Ce dont tu parles, là, Jean-Marc, ça fait 35 ans qu'on est là-dedans. Moi, j'ai appelé ça l'économie de bulle. Et pour moi, l'acte fondateur de l'économie de bulle, c'est pas la fin du Gold Exchange Standard dans les années 70. C'est le lundi noir, 19 octobre 1987. Quand monsieur Alan Greenspan, qui est au pouvoir depuis 2 mois, qui a succédé à Paul Volcker, dit, oh là, ça me rappelle, c'est le premier grand krach boursier d'après-guerre, -20,6 pour le S&P 500 en une journée, -22 pour le Dow Jones, et il dit, ça, moi, le seul truc que j'ai connu dans l'histoire, c'est 29. Donc je vais faire ce que la Réserve fédérale n'a pas fait dans les années 30. Donc je vais inonder liquidités, et il y a les bulles immobilières, première bulle de l'immobilier commercial, qui démarre à la fin des années 80, les savings and loans, qui sont en grosse difficulté, etc. Et ensuite, c'est toujours pareil, j'ai décrit ça dans un bouquin pour Odile Jacob, d'ailleurs, qui a eu un prix Turgot, c'était dans les années 2003-2004. Donc voilà, et ça marche toujours comme ça, donc on vit là-dedans. Donc c'est pour ça que ta critique, je comprends pas trop bien, parce que, d'ailleurs, toi qui connais bien ça, Jean-Marc, quel a été l'objectif principal des premières banques centrales?
C'est le discours de Thornton en 1811 devant la Chambre des communes. Il dit 2 choses. Oui. La première chose, c'est d'éviter la banqueroute, de faire en sorte que l'État ne fasse pas banqueroute. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que les banques qui sont illiquides mais solvables continuent.
Voilà. Et la première banque centrale, c'est la Riksbank. D'ailleurs, c'est la même chose, c'est la Suède. Et Napoléon, pourquoi il a créé la Banque de France en 1800? Pourquoi, d'après toi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y avait eu la guerre et la banqueroute des 2/3 avant. Donc,
C'est intéressant
donc,
quand même.
Donc, l'économie de bulle, c'est ancien d'une certaine manière.
C'est intéressant sur la stabilité financière, mission ancestrale des banques centrales, mission qu'elles ont complètement perdue de vue pendant des décennies jusqu'à la crise financière de 2007-2008. Après ça, on s'est dit, il faut que les banques centrales vraiment réinvestissent cette mission de stabilité financière, mais l'ont-elles fait véritablement? Je pense que la réponse est non. Je pense que la gestion de crise financière et la gestion de crise sanitaire a été vraiment, si vous voulez, mauvaise du point de vue de la stabilité financière. Je pense que là, on est à un moment où on va sans doute être amené à réaliser cela. Si les bulles qui se sont formées explosent, eh bien, on verra
que la gestion... Mais les bulles n'arrêtent pas d'exploser. Enfin, elle pète toute à un moment donné.
Mais en fait,
dégonfler une bulle, Jean-Pierre.
Tu l'as dit tout à l'heure, une banque centrale gère une crise passée en préparant la crise future.
C'est là-dedans, c'est le monde dans lequel nous vivons.
Bah oui, mais.
Bah oui, mais il faut être réaliste.
Le problème, c'est que la dette, c'est essayer de réformer ça.
Oui, mais comment faire pour gérer la dette? Parce qu'il y aura toujours le passif. Comment on fait pour la gérer? Si ce n'est par des taux réels faibles ou négatifs.
Tout à l'heure, Isabelle Coupé-Soubéran disait on sous-estime le pouvoir monétaire incroyable. Et c'est en pensant à vous ce matin dans ma petite liste de sujets que j'ai pondu cette formule complètement j'ai écrit dans un monde parfait et merveilleux que devrait faire une banque centrale. Si on force le trait, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle endosse carrément le rôle de trésor et qu'elle fasse finalement une politique qui serait plus budgétaire que monétaire?
Oui, je sens comme une petite pointe d'ironie dans l'introduction de cette phrase, dans un monde parfait et merveilleux, dans un monde à la oui-oui. C'est pas dans un monde à la oui-oui que la banque centrale devrait être au service de la société. C'est dans un monde normal que la banque centrale devrait être au service de l'économie dans son ensemble.
Être au service de l'économie et de la société, concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement...
C'est de l'hélicoptère monnaie forever?
Non, pas nécessairement non, mais ça veut dire, si vous voulez, une banque centrale qui ne travaille pas que pour les banques et les marchés, qui ne travaille pas qu'à l'enrichissement des banques et des investisseurs sur les marchés financiers.
Vous trouvez que c'est ce qu'elle fait aujourd'hui?
Mais bien sûr.
On a fait quoi qu'il en coûte grâce à la Banque centrale.
Alors, je pense que la Banque centrale, à travers son action des dernières décennies, certes, on n'a jamais le contrefactuel, peut-être que ça aurait été pire sans.
C'est fondamental.
Okay. Mais je pense que ça a surtout servi à approfondir le capitalisme financier dans lequel nous sommes, ça n'a absolument pas servi à amorcer les transformations dont nos sociétés ont besoin.
C'est-à-dire que les faillites et le chômage.
Les banques centrales ont certes, si vous voulez, abaissé considérablement le coût de l'argent. Pour autant, eh bien, ça n'a pas permis véritablement aux États d'investir comme ils l'auraient dû dans la transition écologique. Et je pense que on se trompe quand on dit que les banques centrales ont monétisé la dette publique. Elles n'ont pas monétisé la dette publique. L'argent des banques centrales, entre guillemets, c'est-à-dire la monnaie centrale, est allé dans les poches de ceux qui leur ont vendu des titres. Alors certes, ça a facilité seulement le financement des États. Ça n'a pas ça n'a pas financé directement les États.
Et donc, qu'est-ce qu'elle devrait faire de différence?
Le contrefactuel. Alors,
En quelques mots, parce que je veux faire réagir, bien sûr.
Je pense que ça
profite aux gens et aux économies, cette fois-ci.
Alors, on a besoin, d'abord, si vous voulez, que les banques centrales s'impliquent beaucoup plus dans le financement de la transition écologique. D'accord. Je pense qu'on ne financera pas la transition écologique simplement avec des dettes bancaires ou avec des dettes sur les marchés financiers avec des financements privés. Il faut du financement public, et pas simplement du financement public par de la dette sur les marchés. Il faut que les banques centrales finance les États, finance une partie.
Donc c'est du budget là.
Non, alors attention.
Quel outil on utilise?
Mais c'est pas faire de la politique budgétaire à la place des États que de financer les États. C'est au contraire permettre à la politique budgétaire de s'exercer. C'est ça. C'est financer les États d'une manière différente de celle qui prévaut aujourd'hui.
Alors,
aujourd'hui,
pas sous forme de quantitative easing alors.
Alors, non.
Sous quelle forme
Les États, aujourd'hui, s'endettent sur les marchés.
Oui,
d'accord.
Oui,
et les banques centrales ont facilité cela en rachetant les titres des États.
Sur le marché secondaire, les titres.
Exactement. Et c'est pour ça que c'était compatible avec leur mandat.
Voilà.
Eh bien, les banques centrales pourraient rouvrir des lignes de crédit pour les États, les financer directement pour qu'ils échappent
marché
à la
primaire,
pression du marché.
Marché primaire.
Oui.
L'Agence France Trésor.
Exactement.
Lance une adjudication et la BCE prend.
Exactement. Donc déjà, ça permettrait en fait de soustraire les États à la pression du marché.
Ah ben là,
elle pourrait même faire autre chose, c'est donner de la monnaie centrale aux États pour la partie des investissements dans la transition écologique qui ne sont pas rentables et dont pourtant nous avons besoin. Ces investissements non rentables, c'est pas le marché qui va les assurer.
Je vais réagir, Isabelle Coupé-Soubéran, par rapport à ce qui vient d'être dit, qui est hyper carré, hyper précis. Je crois que tout le monde a compris.
Écoutez, ça peut vous surprendre, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gisabelle. Je crois
alors j'ai un choc là.
Je répare. Gisabelle vient de nous dire que la Banque centrale doit faire beaucoup plus en direction des États et de leur population, quitte à acquérir sur le marché primaire les obligations d'État à l'émission.
Oui, financer directement les États. Je reviens au discours
cette
de...
Fois-ci, le même leur faire des crédits directement, il n'y a même pas besoin que les États...
Et cette fois-ci, le mot monétisation, là, pour le coup, il aura du sens. Hein.
Exactement. Bon, et ça définanciarise.
De Henry Sorton en 1811, rappelant ce que c'était une vraie banque centrale, sur le modèle de la Banque de Suède, et puis ensuite la Banque d'Angleterre de 1694. L'objectif, c'était effectivement de faire en sorte qu'il y ait un outil financier qui finance l'État, quoi qu'il arrive, avec comme objectif, sur la base d'un programme de ce que réalisait l'État. Mmh. Et donc, quand on crée la caisse d'escompte, donc avant la Banque de France, il y avait une caisse d'escompte, donc le directeur avait dit, moi je fais 3% pour certains types de... Mais si vous faites la guerre, ce sera 5%. Donc il y avait la Banque centrale qui disait à l'État, il y a des choses que je vais accepter,
d'accord.
Et il y a des choses en revanche qui me paraissent hors de ce que vous devriez faire en tant qu'État. Si vous faites la guerre, ce sera plus cher. Bon, alors ça c'est une immixtion dans la politique, je pense que ce n'est pas ça, mais qu'il y ait une sorte d'accord entre la Banque centrale et l'État sur un programme à la fois d'évolution du cadre budgétaire, d'évolution du déficit budgétaire, de consolidation de la dette publique et d'équilibre des comptes à moyen et long terme, ça me paraît...
Dans votre esprit, c'est du donnant-donnant.
C'est du donnant-donnant.
Bon.
On a changé ce modèle parce que le 20e siècle a été marqué par l'inflation. Donc il y avait une urgence qui était effectivement de mettre en place tout un dispositif et tout un outil de lutte contre l'inflation. Donc la Banque centrale était indépendante, elle ne finançait plus l'État.
Ouais, d'accord. Mais je vais avancer. Oui, allez-vous faire...
Oui, et donc à partir de ce point... Mais je pense que cette période-là est derrière nous. D'accord. Et donc, repenser la Banque centrale, ça doit être faire en sorte que ce soit un outil qui soit au service, effectivement, des problèmes que nous connaissons. Et je pense que le discours de 1811 est plus que jamais pertinent.
Et
c'est-à-dire, la reconstruction de l'Angleterre en 1811 s'apparente à la reconstruction de notre économie dans un cadre de contraintes écologiques.
C'est de l'argent super magique, là, ce qu'on vient de décrire. Mais pourquoi
c'est pas depuis toujours... Je comprends la critique de tout à l'heure, parce que là,
pourquoi on en arrive
direct... Non, c'est pas de l'argent super magique, parce que...
C'est du super magique là.
Mais
non, je suis pas d'accord.
Mais l'argent, c'est magique, hein, de toute façon.
Le crédit, c'est toujours de la création de monnaie. Là, en l'occurrence, il s'agit de faire créer la monnaie non pas par les banques commerciales, mais par la banque centrale.
Donc on attend. Mais on l'a déjà fait.
Le véritable enjeu dans ça, c'est effectivement l'aléa moral, c'est de considérer que les banques commerciales sont plus à même d'apprécier la pertinence des projets que la banque centrale. Je pense que c'est vrai sur le secteur privé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'activités publiques où, effectivement, il serait naturel que ce soit la banque centrale qui soit porteuse de ça.
La grande différence, c'est que la banque commerciale peut faire faillite.
Oui.
Et la Banque centrale n'a
oui, enfin,
oui, oui.
Sous une certaine mesure.
Rendez-vous
compte de l'histoire.
Et d'autre la Banque commerciale fait faillite parce que si elle fait faillite, c'est parce qu'elle a prêté à des gens qui eux-mêmes peuvent faire faillite. Mm-hmm. La Banque centrale, si elle prête à l'État, elle prête à quelqu'un qui ne fait pas faillite.
Il est infini. Il fait défaut, mais pas faillite.
Et voilà, il fait pas faillite. Il ne fait pas faillite. Donc je pense qu'effectivement, recréer des liens particuliers entre la Banque centrale et l'État dans un contexte nouveau, ça me paraît assez pertinent.
Honnêtement, quand j'écrivais « Monde merveilleux » et...
Oui, non, mais c'est intéressant, bon, hein, d'ailleurs, de voir Jean-Marc à la conversation.
Attention quand même.
Juste un moment, je veux quand même que Jean-Pierre Petit nous donne son avis. Allez-y.
Non, mais en plus...
Elle vous dit d'accord. Juste d'agir.
Attention au cadre de gouvernance. C'est-à-dire que, en effet, je pense qu'on serait beaucoup mieux, si vous voulez, on serait beaucoup mieux lotis si la monnaie centrale aller directement financer des programmes de transformation sociale et écologique. Cela étant, je crois que c'est pas seulement à la Banque centrale et à l'État ou aux États de décider de cela. C'est-à-dire qu'il faut réinventer le cadre de gouvernance.
C'est la BRI alors.
Permettant cela. Non,
c'est la Banque centrale.
Il faudrait mettre autour de la table à la fin. Non, il ne faut pas non plus, si vous voulez, que la Banque centrale devienne le bras monétaire armé de l'État. Si l'État est bienveillant, très bien. S'il ne l'est pas, ça pose un gros problème. Donc il faut un cadre de gouvernance qui permette de faire fonctionner cela de façon suffisamment démocratique.
Des banquiers centraux.
plutôt une table de négociation avec des représentants de la Banque centrale, bien sûr, du Trésor, bien sûr, mais aussi sans doute des parlementaires, qu'il y ait un dialogue avec les parlementaires, qu'il y ait des représentants de la société civile et qu'il y ait, par exemple, des scientifiques du climat quand il s'agit dès là de financer un programme de transformation écologique.
J'en reviens à cette histoire que j'ai racontée mille fois, le jour où il y a pas mal d'... Enfin, on était en plein quantitative easing et c'était le boucher de mon quartier qui me dit, mais dites-moi, monsieur Dose, en fait, la Banque Centrale peut tout faire. Pourquoi je travaille et pourquoi je paye des impôts puisqu'elle peut tout faire? Et là, les propos qu'on porte, ça donne ce sentiment.
Non, il ne s'agit pas qu'elle fasse tout.
Hein, il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de financer des gens qui font. Mmh. Votre boucher, concrètement, la Banque Centrale, il a bien conscience que la Banque Centrale, ce n'est pas elle qui abat les
bœufs. Non, mais je trouve ce dialogue très, très intéressant.
Commencez par moins près du micro, Jean-Pierre.
Commencez par critiquer les banques centrales, on lui demande de faire plus. Bon, c'est très bien.
C'est très bien.
L'économie de bulle, elle est extraordinairement puissante. Elle fait bouger le cerveau de Jean-Marc. Voilà. La conversion, Danieliste.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de se dire, Jean-Marc?
Non, mais
Petit,
de toute façon.
Moi, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on attend?
Il faut solder le passé et il faut préparer l'avenir. Donc tout ça passe pas des taux réels très négatifs, que ça soit fait par financement direct ou indirect. De toute façon, il faut des taux d'intérêt réels. Faiblement positif, nous le négatif. Parce qu'il n'y a pas que la transition climatique, mes amis. Il y a la transition technologique, la transition démographique, la protection sociale, le vieillissement, etc. La transition migratoire. Il va y en avoir des trucs à gérer. Puis la transition géopolitique. Même les Allemands s'en aperçoivent, hein, qu'ils n'avaient pas assez de dépenses militaires. C'est bien beau, Jean-Marc, hein, d'annoncer des ratios de dette publique sans financer la défense européenne ou sans financer les infrastructures allemandes qui servent à l'ensemble de l'Europe et pas seulement à l'Allemagne.
Mais justement, c'est un mode de financement alternatif
qu'on est en train de mettre en avant.
Il y a des impôts aussi, on peut financer tout ça par des impôts.
Oui, tous
les pays ne sont pas au même niveau de prélèvement.
C'est vachement bien, ça marche vachement bien en France, hein, de financer ça par les impôts.
Ah, mais ça, on n'a pas le courage de le faire par des impôts, c'est différent.
Mais non, mais est-ce que ce qu'on vient de décrire, c'est un monde parfait et merveilleux qui n'existera pas.
Non, pas un monde parfait, ça n'existe pas les mondes parfaits. Mais
vous voyez ce que je veux dire.
Ce qui m'intéresse, c'est que, enfin, moi je m'en souviens, j'avais des débats ici il y a 10 ans sur le quantitative easing. Oui. Beaucoup de gens qui critiquaient le quantitative easing, je ne me rappelle plus qui, mais enfin bon, peu importe.
Ça a pu arriver.
Voilà, où il y a 15 ans, etc., les excès de politique monétaire, maintenant on en arrive à, de la part des gens opposés à ces politiques-là, à préconiser des financements directs de la Banque Centrale. Ça veut dire que, voilà, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Enfin, on vit dans ce monde.
Je comprends pas la cohérence.
Je comprends pas la critique, là.
Ah oui, moi, non plus.
Moi, ce que je comprends dans la critique, c'est que vous critiquiez auparavant les banques centrales, qui, de toute façon, ont favorisé tout ça par des taux réels qui sont restés, parce que sinon, c'était 29. Le niveau de dette en 2007 était supérieur à celui de 29. Donc voilà, donc on a financé l'économie de bulle, on a régulé l'économie de bulle. Et ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de miracle, même par le financement direct, il y aura quand même des bulles. Faut pas rêver.
Bah, je pense qu'il y en aura moins.
Bah, pourquoi il y en aurait moins?
Mais si, il y en aura moins.
Bien sûr que si.
Mais...
si vous accumulez de la richesse, ça se passe toujours comme ça. Si vous accumulez de la liquidité vers des secteurs, il y aura forcément des excès. Il y en a. Dans les valeurs ESG, il y a de la survalorisation.
Si ça va à la transformation de l'économie réelle, là où on en a besoin, plutôt que d'aller dans le grand aspirateur de la finance.
Non, mais parce que là,
je suis désolé, il y aura moins de financiarisation.
C'est un monde idéal qui n'existe pas.
Mais pas du tout. Je suis en train d'éclairer les transformations.
Les valeurs ESG sont censées aller favoriser la transition climatique. Il y a des excès monstrueux là-dedans. Ne croyez pas que parce que vous allez mettre des gens autour de la table et favoriser des structures, des fléchages de financement, il ne va pas y avoir d'excès. Bien sûr que si, qu'il y aura des excès.
Il y a Nathalie Janson qui m'écrit « La Banque Centrale n'a rien à faire dans la transition écologique ».
Oui, mais Nathalie Janson, on connaît
ça. Non, mais
elle vient ici, dans cette émission, comme vous.
La Banque Centrale n'a rien à faire dans la transition écologique. En revanche, l'État a une mission et qu'à ce moment-là, la Banque Centrale elle finance quand l'État lance des emprunts qui sont des emprunts pour répondre à cette mission, que la Banque Centrale les finance en priorité, ça me paraît naturel. Il faut laisser à chacun sa mission. C'est les banques commerciales doivent financer des activités commerciales, des activités privées,
marchandes,
et faire faillite quand ces activités marchandes ne sont pas efficaces.
J'ai énormément d'auditeurs qui sont très étonnés de votre position.
Ah bah oui,
on a retourné Jean-Marc.
Non, mais c'est Jean-Marc. Je voyais déjà qu'il y a depuis quelques années.
Je n'aurais pas cru ça
Il y a 10 ans, c'était l'étalon or. Alors là,
encore une fois, Sorton, donc je cite, donc je vais.
Sorton.
C'était dans le cadre de l'étalon or. Il faut qu'il y ait une.
Au 19e siècle, oui, mais maintenant, là, tu peux pas rétablir l'étalon or. Bah, c'est
Greenspan, dont on a parlé, maintenant, il termine sa carrière en disant la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir approfondi nos recherches sur l'étalon or.
Oui, après avoir favorisé l'économie de bulle.
Oui. D'accord, justement, mais c'est son mea culpa.
Ce qu'on a décrit là dans les 15 minutes qui viennent de s'écouler, vous croyez sincèrement que ça peut être un monde de demain ?
De quoi ?
Là, ce qu'on vient de décrire. Une banque centrale qui fait des choix. Enfin, qui a ses circuits de financement.
Moi, je suis pratiquement le seul dans ce truc-là, le débat des experts qui, depuis que je viens, depuis 2005, est toujours préconisé ces politiques. Voilà. Ce que j'ai vu en face de moi, c'est un financement direct des banques centrales.
Alors, formidable.
Voilà, d'accord.
Mais il y a quelques années, je trouvais qu'il y avait pas mal d'opposition.
Il y a des résistances.
C'était sur la quantité.
Voyons, Jean-Marc. Tu vois, même les auditeurs s'en sont aperçus qu'il y a une conversion.
Pas du tout.
Il y a des résistances institutionnelles qui sont énormes. Pour ça, en ce qui concerne l'Europe et plus particulièrement la zone euro, il nous faut changer le mandat de la Banque Centrale Européenne. Il nous faut changer le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Oui. Mais on peut changer ça, c'est pas gravé dans le marbre.
Ça peut se changer. On a 2 minutes 50. Je reviens à des choses plus immédiates. Je pense pas que ce qu'on vient de décrire, ça c'est pour lundi prochain par exemple. Vous avez vu que la Fed va continuer à monter ses taux, mais moins. La BCE va y aller. Alors, j'avais dit, il y a deux camps qui s'affrontent. J'aimerais savoir dans quel camp vous êtes. Parce que là, j'ai vraiment eu ce débat assez souvent. Ceux qui disent, on a payé des fortunes depuis Covid pour essayer de tout préserver. Là, il y a des menaces de récession. S'il vous plaît, ne montez plus les taux d'intérêt. Vous allez précipiter cette récession. Et tous les sous qu'on aura investis pour tout sauver, on va tout perdre parce que vous allez tout casser. Et puis ceux qui disent, il y a un mandat. C'est la lutte contre l'inflation. On a une inflation sous-jacente à 5, 6. On est à 2 de taux d'intérêt. Il n'y a pas d'autre solution quand on a cet écart entre l'inflation sous-jacente et les taux que de les monter pour freiner l'inflation.
Ce débat est un peu clos parce que les taux directeurs maximum sont déjà pricés dans le marché obligataire. Ils sont corrects, ils sont à 5 à peu près aux États-Unis, à 3 pour la zone euro, donc c'est plus le sujet. Le sujet, c'est de calmer les anticipations d'inflation. Il faut revenir de 9 vers les 4 progressivement d'ici l'été prochain aux États-Unis, à de 10,5 aujourd'hui en zone euro vers les 6,5 au printemps été prochain, progressivement, et ensuite on s'ajustera.
On monte les taux, on continue.
On monte les taux tels qu'ils sont pricés aujourd'hui parce qu'on n'a pas le choix. Et encore une fois, lutter contre l'inflation, c'est lutter sur les bases d'une croissance durable et saine.
1 minute 30, Isabelle Coupé-Soubert.
C'est sans doute pas pour lutter contre l'inflation. Alors certes, elles doivent jouer sur les anticipations d'inflation, mais la hausse des taux pourra pas grand-chose contre de l'inflation structurelle, évidemment casser l'économie, ce qui la plongera en déflation, etc. Mais les ressorts de l'inflation structurelle resteront là. En revanche, je pense qu'il faut... Il faut que les banques centrales remontent les taux, mais pas du point de vue de l'inflation. Il faut qu'elles le fassent en pilotant ça graduellement du point de vue de la stabilité financière, justement pour éviter un dégonflement brutal des bulles. Donc il faut que les taux remontent. On sort de toute façon d'une période complètement folle de taux bas, de taux négatifs. Il faut que les taux remontent, mais graduellement pour éviter l'explosion de ces
bulles. Et donc aller à 3, on s'arrête, c'est ça ? En zone euro
Sans doute pas, parce qu'après, il y a l'écart entre les taux de la zone euro et ceux de la Fed. Ça joue sur le taux de change, ça amène de l'inflation importée, donc c'est plus compliqué que ça.
C'est sûr que si on veut avoir un euro plus fort, il vaut mieux monter les taux. Allez, 30 secondes, Jean-Marc.
Moi, c'est taux d'intérêt égal taux de croissance, donc tant qu'on n'en sera pas là, il faut monter les taux, mais dès qu'on est là, il faut arrêter.
Déjà là.
Mais pas du tout.
Ah non, il l'a toujours dit, ça.
Je l'ai toujours dit, alors là, les
taux.
Taux d'intérêt égal taux de croissance, c'est la règle absolue.
Sans que tu capitules, genre.
C'est la grande métamorphose de Jean-Marc.
On vient quand même de s'éclater pendant une heure avec des sujets comme ça. Hein. C'est pas mal. Non mais c'est franchement.
C'est pas fini. Hein,
Oui. Non mais là j'ai.
L'essentiel, c'est il faut repenser à ce qu'est une banque centrale. Ça c'est
exactement ce qu'elle doit faire. Et au service de qui elle doit.
J'ai pas pris le temps, mais j'ai une nombre de réactions. Comme quoi ça fait réagir. Merci Isabelle Coupé-Soubéran, Jean-Marc Daniel, Jean-Pierre Petit. Rendez-vous lundi 9h.